Avec vous, le livre des Nombres, Nombre 19, verset 1er, voici ce que nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. » sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang, et avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera les cendres de la vache, la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin de faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec l'eau le troisième jour et le septième jour et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant sept jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant sept jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope, la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements. Et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein? Impur, pur, impur, pur, il se lavera. Eh oui, trois jours, sept jours, eh oui. Alors, moi ce que je constate, c'est que nous sommes, nous, sous une grâce particulière. Parce que ce qui concerne le salut pour nous, eh bien, il n'y a plus rien à faire, puisque c'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Amen. Il a porté nos péchés, nos fautes, nos maladies, tout. Alléluia. Quel bonheur. ne pas avoir à revivre ces choses sans arrêt. Eh oui. Alors c'est vrai, nous ne pouvons plus rien faire pour notre salut, pour notre pardon, bien sûr. Cela, eh bien Jésus l'a fait. C'est-à-dire qu'il nous a fait naître de nouveau. Et si nous lui avons demandé cela, bien sûr, il ne le fera pas contre notre volonté, parce qu'il nous respecte. Mais à partir de là, si nous avons fait la démarche de foi, d'aller vers lui, de demander de nous purifier, de nous pardonner, il l'a fait. Mais à partir de là, nous sommes appelés à grandir, à produire ce que l'on appelle les œuvres de la repentance. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous », et pour des enfants de Dieu, c'est normal, on ne devrait même pas le dire. Hein. Et ensuite, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, nous ne pouvons, je dirais, mériter ou gagner le salut. Non, on ne peut pas. La vie éternelle, c'est un cadeau. Pas qu'à Noël, les cadeaux. Jésus, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Il nous a donné le salut. Amen. C'est un don, c'est une grâce. Cette grâce, ce cadeau, ce don, on peut l'accepter ou on peut le rejeter. On est libre, hein? Chacun est libre. Mais une fois que nous nous sommes quelque part engagés, lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, eh bien nous sommes appelés à grandir dans la foi, dans la confiance, sur le chemin de la vie. Un enfant déjà physique qui ne grandit pas est en danger. Il est en danger de mort. C'est très grave. Et pour le chrétien, c'est un petit peu la même chose. Nous sommes appelés à grandir. On ne peut pas rester statique. On ne peut pas évoluer. On n'a pas le droit. Sans quoi on va se perdre. Donc il nous faut mettre en œuvre le salut. Amen. C'est nous. Nous avons accepté le pardon. La grâce, nous avons été acceptés par Dieu. Maintenant, avançons. C'est Paul qui va dire dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant que je suis absent. » Sage conseil de Paul, de mettre en œuvre le salut, pas seulement en présence de l'apôtre. C'est ce qu'il leur disait. Vous pouvez faire de belles choses, me montrer que vous êtes engagé, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que lorsque je ne suis pas là, vous fassiez pareil. Lorsque je suis absent, vous continuez quelque part à vous démarquer de ce monde dans lequel vous vivez. Donc quand je suis absent, allez avancer, continuez. D'ailleurs, je ne serai pas toujours avec vous. Bien sûr. Alors nous sommes invités à mettre en œuvre le salut. Encore plus lorsque nous ne sommes pas au culte, à la réunion de prière, dans le service de Dieu. Non, non, parce que le danger est moins grand lorsque nous sommes entourés de frères et sœurs, lorsque nous sommes quelque part dans l'église, dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes ensemble, nous nous gardons, nous veillons sur notre âme. Mais il faut faire la même chose lorsque nous ne sommes pas aux réunions. On n'est pas chrétien que le dimanche matin. On n'est pas chrétien que lorsque, on vient aux réunions ou lorsque on est dans sa chambre lisant la Bible ou justement nous tenant au pied du Seigneur dans la prière, dans l'adoration, je ne sais pas. Voilà. Alors, on peut aussi pécher. On peut se tromper. On peut faire autre chose justement lorsque nous sommes loin de ce contexte-là. C'est plus facile. D'ailleurs, l'adversaire, lui, il rôde. On en parlera tout à l'heure, comme un lion rugissant, qui va dévorer. Dans la maison de Dieu, non, il sait qu'il ne peut pas. C'est difficile, c'est plus difficile. Or, il peut mettre des pensées. Comme disait quelqu'un, je ne peux pas empêcher l'oiseau de se poser sur la branche, mais je peux l'empêcher de rester, d'y faire son nid, et surtout de picorer les fruits. D'accord? Donc c'est la même chose pour nous. Alors on peut pécher de diverses manières, par orgueil par exemple, ou autre chose, mais il y a des situations parmi lesquelles, eh bien, nous pouvons justement faire en sorte que ça ne perdure pas. Pour être sur un terrain glissant à un moment donné, par rapport, je parle par rapport au péché, hein, ou par rapport à certains péchés, mais nous pouvons faire en sorte que ces choses soient stoppées, arrêtées. Nous pouvons stopper avant que, eh bien, le péché ne soit consommé. C'est important. Il faut se garder. Alors, mon but n'est pas de vous faire peur, mais quelque part de servir d'avertissement et ou nous avertir parce que je ne suis pas moins concerné que vous et loin de là. Un dicton dit qu'un homme averti en vaut deux. Alors, si je tiens compte de ça, c'est un dicton, hein, c'est pas dans la Bible. Mais votre valeur aura doublé à la fin du message. Oui ou non? Eh bien sûr. Hein. Alors, bien sûr, ce dicton n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible dit que nous avons une immense valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai que lorsqu'on est averti d'un danger, eh bien, on peut s'en prémunir. On peut s'en préserver. Parce que justement, on est averti. On sait que le chemin sur lequel je suis là, c'est un chemin glissant, dangereux, qui peut me précipiter encore plus bas. Alors je peux stopper. Je peux justement, eh bien, tourner les regards ailleurs et voir autre chose. La gloire de Dieu, la présence du Seigneur. Alors je disais que nous sommes en danger. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez ». Voyez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, il est dit, rejetons tout fardeau. Donc ça nous incombe. D'accord? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voyez? Courir, aller de l'avant. Pas faire du surplace, ne pas tourner en rond. Israël l'a fait. Dommage pour eux parce qu'une génération s'est perdue. Mais nous devons aller de l'avant. Alors le diable rôde. Il rôde, c'est un fait. Il rôde pour nous attirer dans le péché, pour nous envelopper par le péché. Que fait le péché? Le péché, il nous éloigne de Dieu. C'est le fait de manquer le but. Et finalement, eh bien, il peut nous mener vers la perdition éternelle, vers la mort. Alors, ça ne doit pas nous faire peur, comme je disais, un homme averti en vaut deux, mais nous faire prendre conscience qu'il est important, eh bien, de saisir les armes de la foi. Amen. J'appartiens au Seigneur. Je suis à lui. Et le Seigneur est le maître de ma vie. Amen. Donc, saisir les armes de la foi, les employer, comme il est dit plus haut, de les mettre en œuvre. J'ai été sauvé. Le sang de Jésus m'a lavé. Et même si l'adversaire fait remonter à la surface certaines choses de ce que vous étiez auparavant, vous pouvez lui dire, c'est fini. Ça, c'est fini. Oui, j'ai été comme ça. J'en ai rougi. Maintenant, je rougis plus. Parce que j'ai été lavé, j'ai été purifié. Le sang de Jésus, son Fils, m'a purifié de tout péché. Alors ce récit de la vache rousse nous fait penser à quelque chose de particulier, c'est le sacrifice de Jésus. La vache doit être rousse, sans tache, sans défaut corporel, ne jamais avoir porté de joug. Alors, il suffisait d'un poil blanc sur le hourou, il se serait vu, ou noir, il se serait vu aussi, pour justement disqualifier la vache. Elle n'est pas propre à servir de victime expiatoire. Non. Alors c'est vrai que le texte des Nombres ne parle pas explicitement de Jésus, mais Jésus lui-même, dans Luc chapitre 24, verset 44, dit que Moïse parle de lui dans la loi. Je lis. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus aussi était sans tache, sans faute. Il était pur. Il correspondait parfaitement, eh bien, aux exigences de Dieu. Il était sans péché. C'est pourquoi il est monté sur le bois de la croix, lui le pur, lui le juste, pour nous des injustes et des impurs. Pour cela qu'il est monté sur la croix et que son sacrifice a été accepté par Dieu lui-même. C'est le standing de Dieu. Alors il est dit que toute la vache doit être brûlée, la peau, la chair, le sang et même les excréments. Tout. Si je regarde un peu, Jésus, lui, il a tout donné pour nous. Il a tout donné. Et sur le bois de la croix, absolument tout. Il s'est sacrifié pleinement. Amen. Alors après cela, le sacrificateur doit prendre de l'hysope, du cramoisi, et il doit jeter cela, rouge de sang, eh bien, dans les flammes. Souvenez-vous qu'avant de mourir, on a tendu à Jésus, lorsqu'il était sur le bois de la croix, crucifié, du vinaigre sur une branche d'hysope. Vous regarderez cela dans Jean, chapitre 19, verset 29. Et après, il est dit que la cendre de la vache est déposé hors du camp. Et dans Hébreu, chapitre 13, versets 11 et 12, il est dit que le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pas la suite ? Ah, mais je ne l'ai pas. Voilà. Mais il est dit également qu'après, il sera porté hors de la porte, à l'extérieur. C'est pour cela que Jésus, lui aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Le lieu du crâne, c'est à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Le mont Golgotha, c'est hors de la ville de Jérusalem. C'est là où on brûlait justement les cadavres d'animaux. Alors, Jésus est mort, il a porté nos péchés, c'est un fait. Nos péchés ne sont donc plus sur nous, puisque Jésus les a portés. Amen. Il les a portés. Donc, ils ne peuvent pas être à deux places à la fois. Ils sont sur Jésus, ils sont plus sur moi. C'est beau d'être léger. Hein, vous rappelez Monsieur Tournesol? Pour une certaine marque d'huile, je vous dis pas laquelle. Hein, je l'ai dit, quand même. Il disait, léger, léger, et puis monter. Et bien, c'est la même chose pour nous. Quand je me suis converti, moi je me suis senti léger quand j'ai été pardonné, quand j'ai été lavé, purifié, que le sang de l'agneau était passé sur moi. Waouh, il n'y a plus tous ces poids. C'est parti. Permettez pas qu'ils reviennent. Vivez et marchez en nouveauté de vie. Alors le sacrifice est accompli. La vache rousse a été brûlée. Mais avec les cendres, on fait de l'eau de purification. Ça c'est pour purifier. On l'a lu tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur tout le texte, mais pour purifier tous ceux qui sont en contact avec des morts. Et comme l'eau de purification obtenue après la mort de la vache est aspergée, nous, nous pouvons aller à Dieu pour nous purifier de tous nos péchés. Un enfant de Dieu peut se corrompre à nouveau. Sauver, sauver toujours, non. On peut reprendre sa destinée, lâcher la main du Seigneur et marcher à l'opposé de la croix. On peut se tromper. David s'est-il trompé? David, il a commis le meurtre, le mensonge, l'adultère. Jusqu'à ce que Dieu lui envoie le prophète qui lui parle. Et à un moment donné, David va revenir à lui-même. Il va se repentir. Et il va être tout à nouveau blanchi, excusez-moi pour ce mot-là, mais c'est la réalité. Il va se retrouver de nouveau pur. Parce qu'il s'est repenti, parce qu'il l'a accepté, parce que, et c'est ce que dit 1 Jean chapitre 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je ne sais pas où tu en es. Mais si tu as vécu quelque chose, si tu vis en ce moment sous un joug, sous quelque chose de lourd à porter que tu ne supportes plus, viens au pied de la croix. Viens dans la présence de Dieu. Repens-toi tout à nouveau. Accepte justement que tu t'es trompé, parce que c'est ça le plus dur, c'est l'orgueil. Mais accepte que tu t'es trompé, que tu t'es planté, que tu as failli, que tu es aujourd'hui sur le chemin de la perdition et reviens sur le chemin de la vie. Repens-toi. Repens-toi. Alors même si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, je reviens à ce que je disais, nous devons nous purifier lorsque nous péchons. pour se purifier, il faut confesser. C'est pas tout de dire « Seigneur, pardon, pardon, pardon ». Pardon, pourquoi ? Quelqu'un vient vous voir et vous dit « Pardonne-moi, mon frère ». Je veux bien, mais je veux savoir pourquoi je dois te pardonner. C'est la même chose. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas ? Si, il sait. Mais ce qu'il veut, c'est la confession totale. C'est la confession totale. Quand la confession est là, voilà, j'ai mal fait, j'ai mal parlé de toi, j'ai eu des mauvaises pensées à ton égard, je te demande pardon, mon frère. Ma sœur, ça peut être pareil. Hein. Voilà. Et à partir de là, le pardon est effectif. Parce que le cœur y est. Je ne vais pas m'humilier devant quelqu'un si ce n'est pas vrai. Je le fais quand c'est vrai. Je m'humilie devant la personne, je lui demande pardon. Et la personne en face, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit pardonner. Amen. Parce que si elle ne pardonne pas, elle se retrouve sous un joug. Elle se retrouve en porte-à-faux. Le Seigneur l'a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Vous voulez que le Père vous pardonne ? Qui veut que le Père lui pardonne ? Ah, toutes les mains, c'est bien. Et là devant, vous avez la flemme de lever la main, hein ? Voilà, vous voulez pas que le Père vous pardonne ? Si, ils veulent, hein ? Voilà. C'est important. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le béaba, hein ? Alors, dans le texte, il suffisait de toucher un os d'un mort, simplement, pour être impur. Oui, c'est plus grand. Quand la Bible nous dit que le péché nous enveloppe si facilement, il n'est pas nécessaire de toucher la tête, tout le corps, mais je dirais un bout suffit, un petit morceau. Et là, j'en reviens à dire que ce petit morceau, ce petit bout, il est vraiment dangereux. Parce que je peux dire, oh, c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Un petit mot de travers, non. Non, parce qu'après tout, le corps est pris. Un petit regard. Non. Le Seigneur a dit, il vaut mieux que tu perdes ton œil et que tu gardes ton âme, que tu la préserves. Vous comprenez ? Donc, c'est important, hein ? Il faut le faire, il faut le faire. Il est dit que le diable rôde. Comme un lion, et c'est pas pour peut-être dévorer, mais il rôde comme un lion cherchant qu'il dévorera. C'est-à-dire, il cherche une proie. Vous comprenez ? Il cherche une proie. Alors, le lion, pour garder un petit peu ses principes à lui, il s'attaque à quoi ? Ben voilà, je vais faire prêcher, hein. Il s'attaque aux faibles, c'est-à-dire aux plus faibles, à ceux qui courent le moins vite. Ils sont moins agiles, hein. Et même, il s'en prend quelquefois à un grand animal. Il attaque où ? Il attaque sur les points faibles, le cou, l'échine, par derrière. À lui, il n'a pas de scrupule. Hein. Lui, il n'a aucun scrupule. Là où il pourra arriver, il y arrivera. On dirait, oh non, ne prends pas par derrière, c'est pas beau. Mais lui dira, si, si, moi je vais le faire. Hein. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est dévorer, c'est tuer, c'est faire mourir. Il cherche à nous faire toucher la mort, le péché. Il peut nous tenter pour que nous allions au-delà même du voile, au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je dis que c'est au-delà du voile, c'est un peu ça. Hein. S'il ne veut pas nous arrêter en nous faisant pécher outrageusement ou d'une manière grave, il peut nous pousser hors de l'écriture. Il faut être vigilant. Il faut lire la Bible. Il faut la comprendre avec la grâce du Saint-Esprit. Amen. Alors, on peut être très avancé dans certains domaines de la foi, mais avoir des points faibles dans notre vie. Et l'ennemi va s'attaquer à ces points faibles. Lui, il va chercher à découvrir où est-ce qu'il y a, eh bien, le point faible dans ta vie, dans ton cœur ou dans ton âme ou dans ton esprit. Amen. Alors, ce ne sont pas les mêmes pour tous. Ça peut être le manque de confiance dans les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas confiance dans les promesses de Dieu, qu'est-ce que vous faites ? C'est que Dieu peut te bénir. Oh non ! Vous faites du menteur, là. ou la personne qui vous parle. Hein? Ça peut être l'orgueil. Ça peut être l'orgueil. Le mensonge, la dissimulation, la sexualité, l'argent, le pouvoir, la manipulation, le vouloir vaincre par ses propres forces. Moi, je peux y arriver. Hein? Je suis pas plus bête que les autres. Hein? Être considéré aux yeux du monde. Vous voyez, avoir une place. Eh oui. Ou même au mieux chrétien, bien sûr. La jalousie. Et plein d'autres péchés dans divers domaines, bien sûr. L'ennemi essaie de s'en prendre à nos points faibles. Quel est ton point faible aujourd'hui? Ton caractère? Demande au Seigneur de le transformer. J'en vois qu'ils font. Eh oui. Illustration. Prenez un exemple, celui d'une lanterne. Vous savez ce que c'est, une lanterne avec une lampe à huile qui brûle à l'intérieur. Il y a la lampe à huile qui brûle à l'intérieur et autour, il y a une protection, hein, c'est la lanterne. Donc la lanterne protège la flamme, et même s'il y a beaucoup de vent, eh bien la lanterne, tout autour, elle est protégée, donc elle continue d'illuminer. La flamme continue de briller. Amen. Mais imaginez qu'il y a une toute petite fente, un jour de grand vent, toute petite brèche, hein, une petite fente, et que le vent arrive à s'engouffrer et créer un courant d'air. Vous allez voir la flamme qui va commencer à bouger, puis, pom, plus rien. Eh oui, c'est ça. Hein. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais trois côtés de la lanterne sont bien hermétiques, bien solides, très résistants au vent. Mais il suffit d'une petite faiblesse, toute petite, pour permettre au vent, justement, eh bien, de menacer la flamme. C'est-à-dire que Dieu veut nous montrer par sa parole et son esprit nos points faibles, les domaines de notre vie où nous sommes faibles. Et où il nous faut, justement, que ça change. Il faut que le Seigneur puisse, lui, justement, travailler en profondeur dans notre vie pour que nous devenions cette place imprenable pour l'adversaire. Où il ne peut pas, où il n'a pas de droit. Et dans le texte de la vache rousse, il est dit qu'un homme pur prendra de l'hysope et aspergera les personnes impures. Et le psaume 51, verset 7 dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Permettez que le Seigneur vous asperge. Amen. Afin qu'il n'y ait plus de brèche. Dans le texte, le sacrificateur asperge 7 fois la tente d'assignation avec le sang de la vache. Alors 7, c'est le chiffre de la perfection. On dit c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection parce que Dieu est parfait. Alors, on est vraiment pur. Hein, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Dieu désire, après avoir purifié nos péchés, que nous confessons, bien sûr. Hein, ceux que nous gardons, ils ne seront pas purifiés. Ils seront toujours là, et un jour ou l'autre, ils vont pointer leur tête. Hein, le coup va dépasser, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il désire faire? C'est colmater ces petites et grandes brèches. Il veut faire un travail en nous, il veut nous façonner, il veut nous transformer, justement parce que, eh bien, là, il y a un point de faiblesse. Et Dieu ne veut pas. Ton Dieu veut que tu sois fort. Ton Dieu, mes sœurs, Dieu veut que vous soyez fortes. Amen. Il le veut, tout simplement. Alors nous devons simplement reconnaître nos faiblesses. Taire son orgueil et dire c'est vrai, là je ne suis pas à la hauteur. Regretter, bien sûr, sincèrement nos fautes. Vouloir les abandonner et nous engager avec l'aide de Dieu à ne plus recommencer. Amen. Et ainsi, eh bien, nous laisser façonner par lui. Nous laisser travailler, être transformés parce qu'il veut faire de nous des vases tout simplement d'un usage pur, beau, magnifique. Amen. Alors, ça se fait en combien de temps, ça? J'ai compris le déclic, ça y est. Je sais où est mon problème. Je vais demander pardon, je vais le faire une fois, deux fois, trois fois, parce que je veux que ce soit compris. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous faites. Est-ce que ça se fait instantanément? Quelquefois, oui. Parce que c'est une question de vie ou de mort. On bascule du mauvais côté ou du bon côté. Et puis, quelquefois, ça va prendre du temps. L'esprit est bien disposé. La suite, c'est quoi? Mais la chair est faible. Hein? Ah oui, ça peut prendre du temps. Alors, il y a l'aspersion le troisième jour. Il y a l'aspersion le septième jour. Vous croyez que Dieu agit pendant ce temps? Bien sûr qu'il agit. Bien sûr qu'il est à l'œuvre. Parce que Dieu veut nous changer. Parce que Dieu veut nous transformer en profondeur. Amen. Dieu peut nous changer, il a le pouvoir de le faire. Ne doutons pas de cela. Alors l'ennemi, lui, il vient. Il nous dit, tu as déjà prié tant de fois. Aucun changement, t'as remarqué? Ah, il sait nous le dire, hein. Parce qu'il suffit que, par exemple, si on a tendance à se mettre en colère quand on nous touche d'un peu près, eh bien, il y aura quelqu'un d'un peu près qui va venir nous toucher, nous écraser les pieds, par exemple. Et ça va nous faire bondir, à jaillir. Il te dit, tu vois, il n'y a pas de changement chez toi. Ça marche pas, tu peux prier, hein. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Parce que le Seigneur, lui, il agit. Alors, n'oubliez pas que à la fin de l'année scolaire, qu'est-ce qu'il y a pour les élèves, les étudiants? Il y a l'examen de passage. Seigneur, j'ai compris, je te demande pardon. Ok, je vais vérifier que tu as compris. Et il permet une épreuve justement dans ce sens-là. Et c'est là qu'il faut la bonne réaction pour justement savoir si vous avez bien compris, si vous avez réussi l'examen de passage. Sinon, ben, il faut reprendre des cours. Il faut recommencer, il faut s'humilier, il faut... Eh oui. Et à partir de là, eh bien, vous allez grandir. Est-ce que vous comprenez? Ça peut se faire instantanément, parce que, comme je dis, c'est urgent. Mais sinon, eh bien, ça peut durer. Hein, tant que l'être tout entier n'y est pas. Même le caractère. C'est le plus dur, le caractère, d'ailleurs. Hein, vous n'avez pas remarqué? Alors, si l'ennemi nous insuffle ces choses... Tu n'y arriveras pas, tu ne changeras jamais, jamais tu vaincras ça. Non, ce n'est pas possible. Alors, s'il nous insuffle cela, c'est bien parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Que Dieu peut, et qu'il veut justement nous changer. Sinon, si effectivement Dieu ne pouvait pas nous transformer dans un domaine ou dans un autre, nous donner la victoire, il n'aurait pas besoin de nous le dire. Vous avez compris? Le diable, lui... C'est nous stopper, c'est nous nuire, c'est nous faire du mal, c'est nous séparer de Dieu. Et comme il sait que Dieu fera tout pour nous gagner, Dieu mettra tout en œuvre pour que nous triomphons de notre nature, eh bien il nous dit que ce n'est pas possible. Alors il sait que Dieu peut le faire. Mais lui, son rôle à lui, c'est de nous faire douter de cela. Alors stop, cesse de l'écouter. Ne te laisse pas décourager. Avance. Fais confiance au Seigneur. Amen. C'est bien parce qu'il connaît le pouvoir de Dieu de nous transformer à son image. Eh bien, dans tous les domaines de notre vie, que lui, justement, il essaie de nous avoir. Il essaie de nous mentir. Jamais tu changeras. Jamais elle changera. Comment tu sais? Moi, je sais une chose, c'est que Dieu a le pouvoir de le faire. Amen. Donc, avançons par la foi. Nous ne sommes pas découragés. Dieu est bon. Il est plus fort que l'ennemi. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour nous transformer, pour faire de nous des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à son maître, propres à toute bonne œuvre. Amen. Alors, ne te laisse pas avoir. Avance, fais confiance au Seigneur. Tu n'auras pas à retourner dans l'attente d'assignation, de retourner ici, là, 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 là. Jésus a tout accompli. Et tu es placé au bénéfice du tout accompli de la croix. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas dérober le bonheur, la joie, la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors cesse. Ne tapis pas sur ton sort, mais allez, sors un peu de là, finalement. Tourne les regards vers le Seigneur. Amen. Tu es libre. Dis-le, je suis libre. Ah, non, pas amen, j'ai dit. Dis-le, je suis libre. Je suis libre. Je suis beau, je suis belle. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Oh, vous ne le dites pas. Il faut qu'il l'entende, l'adversaire. Il faut qu'il l'entende. J'appartiens à Jésus. J'appartiens au Seigneur. Tu n'as pas de droit dans ma vie. Je ne t'écoute pas. Moi, j'écoute la voix qui me dit, tu es beau, mon fils, ma fille. Amen. Je t'aime. Alléluia. Je prends soin de toi. Voilà ce que j'écoute. Amen. Tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Le prix, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de sang plus élevé, plus beau et plus pur que le sang de Jésus. C'est celui qui recouvre ma vie. Alors adore, bénis, célèbre le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier. Les musiciens vont se mettre en place. Marcelin va venir. On s'avance ensemble, vous voulez bien ? Peut-être lever la main au ciel, je ne sais pas, pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli sur le bois de la croix. Merci pour nos vies, Seigneur, tu les as précieusement entre tes mains. Et qu'il est bon de savoir que tu es ce mur protecteur. Seigneur, que mes pensées ne s'égarent pas en chemin, mais que les regards soient posés sur toi en permanence. Merci, mon Seigneur, dans le nom de Jésus, pour tous ceux et celles que tu as sauvés, que tu as éclairés, que tu as pardonnés, que tu as couverts de ton sang. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire pour ton peuple, pour ton Église. Amen.